Bien, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue donc à cette conférence donc sur Silver Eco Expo et donc un débat qui va être consacré ce matin aux clés de la réussite de la Silver Economy avec les pionniers du marché des seniors. Donc Frédéric Serrière n'a pas pu être avec nous ce matin, mais donc une étude a été réalisée et elle va vous être présentée par Benoît Gobleau, donc directeur de Matinale, et donc avec qui je vais avoir le plaisir d'animer nos échanges. Et ensuite, donc nous aurons quatre témoignages, donc quatre success stories à la française, donc avec Bruno Derville, donc vous êtes PDG des Seniorial, donc à vos côtés Régis Roqueton. Vous êtes PDG donc d'Easy Shower. À vos côtés donc Monsieur Fernand da Silva, directeur France d'Handicare, et Monsieur Guy Bastide, donc PDG de Bastide Group. Donc nous verrons avec vous quelles sont selon vous les clés de la réussite et comment vous avez appréhendé ce marché des seniors. Mais donc pour démarrer, pour poser le cadre, je passe tout de suite la parole donc à Benoît pour la présentation de l'étude sur les clés de la réussite.
Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'étude a été réalisée par Frédéric Serrière de Senior Stratégique, qui a interrogé donc les 21 chefs d'entreprise qui ont eu l'initiative de démarrer sur ce marché il y a bien des années pour un certain nombre, de s'interroger sur les solutions qui pouvaient être apportées, sur les meilleures réponses à apporter et qui ont trouvé des réponses, qui ont fait leurs preuves. Et on va voir aussi la capacité d'évolution et d'innovation dont ils ont su faire preuve sur ce marché, qui n'est pas aussi simple à comprendre que certains peuvent l'imaginer quand ils ne sont pas encore rentrés sur ce marché. Donc cette interview donc a porté auprès de 21 chefs d'entreprise et on va voir les 7 conclusions importantes qui peuvent être tirées de cette étude. Alors le premier point, c'est effectivement acquérir une expérience de terrain. Et moi je trouve ça, les termes mêmes sont extrêmement intéressants. Acquérir, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est inné. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas parce qu'on a observé de loin, qu'on a parlé à ses grands-parents, c'est très souvent ce que j'entends dire de la part d'un certain nombre d'entrepreneurs, j'ai regardé comment vivait ma grand-mère et je me suis dit, en règle générale, moi je me dis à ce moment-là, catastrophe. Acquérir une expérience de terrain, c'est pas avec une seule personne, c'est véritablement aller chercher l'information et comprendre qui sont les clients auxquels on veut s'adresser. La deuxième chose, c'est l'expérience. Et l'expérience, effectivement, c'est aussi bien l'expérience du modèle économique sur lequel on va travailler, à savoir que sur ces marchés-là, il n'y a pas de phénomène d'expérience. Quand vous regardez les marchés des équipements des jeunes enfants, les marchés d'équipements des jeunes adultes, bien entendu, il y a des tas de modèles qui existent et que vous pouvez trouver en librairie. À destination des seniors, c'est un tout nouveau marché. Et donc, les pionniers qui ont la gentillesse d'être là avec nous aujourd'hui sont effectivement de vrais aventuriers et c'est extrêmement intéressant d'entendre leur point de vue. Deuxième chose, c'est aussi l'expérience qui est importante de ces consommateurs, à savoir que quand vous avez 60, 70, 80 ans, eh bien vous avez un véritable vécu de consommateur sur lequel vous allez juger vos modes de choix, qu'est-ce qui va définir effectivement votre choix, votre sélection dans les solutions qui vous sont apportées. Et donc il est important d'aller les voir, d'où cette notion de terrain. Et ce qui est important, ce qui est ressorti, c'est que les pionniers ont souvent revu leur business model original avec les résultats du terrain, c'est-à-dire qu'on envisage la manière dont ça va se passer. J'ai vu hier, ça m'a fait sourire, parce que j'ai vu un entrepreneur qui se voyait déjà avec un certain volume de chiffre d'affaires dans 3 ou 4 ans. Je pense que d'ici les 3 ou 4 ans, il aura sans aucun doute largement revu son business model. Et ce n'est pas les présidents des sociétés qui sont là qui vont me contredire. Deuxième chose, c'est s'entourer de personnel avec une bonne connaissance de la cible et de son environnement. Alors ça, c'est aussi le point très très fort. Moi, je vois tous les clients avec lesquels je travaille, ils vont chercher, par exemple, des gens qui ont travaillé pour des mairies, parce que dans les mairies, on est très soucieux de son électorat, et notamment des personnes âgées, bien entendu. Et donc, ils vont effectivement apporter leur point de vue, leur connaissance des seniors. Vous pouvez également prendre, par exemple, une infirmière gériatrique, une ancienne directrice d'EHPAD. Tout ça va vous apporter effectivement une connaissance de cette population-là, une connaissance de cet environnement qui est extrêmement riche et c'est eux qui vont effectivement vous aider à franchir les étapes et qui vont se présenter et les obstacles qui vont se présenter sur votre chemin. Et le troisième point, et quelque part c'est le bon exemple ce jour, c'est de pouvoir échanger avec les autres acteurs du marché des seniors, parce que ce consommateur, il ne vit pas tout seul en relation avec votre produit ou votre service, c'est un consommateur multiple, et donc c'est extrêmement important d'arriver à comprendre sur tel ou tel sujet, eh bien, il va se comporter de telle et telle manière, et donc ça va enrichir ma réflexion. Le deuxième point qu'il faut bien comprendre, alors de temps en temps, moi on me dit, ben oui, le marché des seniors c'est formidable, il y a par exemple 15 millions de retraités. Persuadé qu'on va vendre aux 15 millions de retraités la même solution pour tout le monde. Ce n'est absolument pas vrai, évidemment. Il faut rentrer à l'intérieur, segmenter, cibler la cible à laquelle on s'adresse. Et ça va être de comprendre. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, les 60-80 ans, il faut bien comprendre que de 60 ou 80 ans, ben, il y a une génération, c'est les parents, et puis une génération, c'est les grands-parents. Et donc, ce ne sont pas nécessairement les mêmes, les relations ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas eu les mêmes marqueurs générationnels, d'où l'importance d'aller comprendre. Et puis, leurs besoins ne sont généralement pas tout à fait non plus les mêmes. Il faut arriver à rentrer là-dedans, comprendre quel est leur processus d'information. Où vais-je chercher l'information? Je suis confronté à un problème, à quel endroit je vais aller chercher cette information? Quels sont mes critères de choix? Et également, quel est mon parcours consommateur? Quelles sont les étapes que je vais franchir avant de sélectionner telle ou telle société pour répondre aux besoins qui ont été identifiés? Le troisième point, extrêmement important, et là on revient quelque part au tout premier, c'est tester, tester, tester. Alors ça, c'est fondamental. Vous pouvez avoir toutes les meilleures idées du monde, il est fondamental d'aller les confronter aux consommateurs. Et les confronter aux consommateurs, ça veut dire les écouter. Et ils ont une demande très très forte de pouvoir s'exprimer sur les sujets qui leur sont proposés. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus riche. Moi, je passe beaucoup de temps à aller voir les clients de mes clients et je me rends compte à chaque fois que eux ont une perception propre qui n'est pas forcément celle qui m'a été communiquée par mes interlocuteurs. Et ça va permettre d'enrichir la réflexion, de mieux comprendre quelles sont les solutions à apporter, la manière de leur présenter, la manière de communiquer sur le sujet. Et donc ça veut dire qu'il faut absolument tout tester. Tester vos offres, tester vos argumentaires, tester votre démarche commerciale. J'en parlais tout à l'heure avec Régis Rocton, qui innove par exemple, et qui est toujours en train de tester de nouvelles choses et de mesurer, bien entendu, les résultats de ces nouvelles orientations qu'il a choisies. Quatrième point qui est ressorti, c'est d'être très pragmatique. Et ça, on revient de toute façon à la cible à laquelle on s'adresse, qui est une cible qui, elle-même, est très pragmatique. C'est-à-dire que ils ont été pendant toute leur vie un petit peu grugés par certains qui leur ont survendu tout un certain nombre de choses, qui ont fait des promesses qui n'ont pas tenues. Et donc, ils ont tendance à revenir sur des choses très claires, très précises, très concrètes. Et ils ont besoin de comprendre. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en échangeant avant le début de la réunion. C'est la simplicité. Ce qui ressort, c'est que si vous regardez les propositions qui sont faites par les quatre sociétés présentes sur ce podium, sur cette estrade, vous comprenez instantanément quelle est leur offre. Et donc, vous n'avez pas de questions à vous poser. Donc, c'est beaucoup plus simple de rentrer en relation et d'acheter leurs produits ou leurs services. Donc, le caractère pragmatique est extrêmement important. Ne pas faire des plans sur la comète hein, à 3, 4 ou 5 ans, revenir sur du court ou du moyen terme et puis constamment se remettre en cause et revoir son modèle économique de manière à pouvoir évoluer en fonction de l'univers, de l'environnement dans lequel on est et qui évolue lui-même. La cinquième qui va être d'affiner sa stratégie de communication. Alors, quand vous regardez les modèles effectivement qu'utilisent un certain nombre de pionniers sur ce marché des seniors, il n'est pas très très loin des techniques de vente par correspondance, à savoir qu'ils vont chercher les consommateurs chez eux, ils vont leur proposer leurs solutions et ils vont leur proposer de rentrer en contact. Ce qui est important, c'est d'arriver à récupérer des adresses. Je suis toujours sidéré quand je me rends compte qu'on peut me donner une information, c'est-à-dire que moi je m'intéresse à un sujet donné, et puis à aucun moment on me demande qui je suis, comment rentrer en contact avec moi. C'est tout de même moi qui ai fait cette démarche d'aller vers l'entreprise, l'entreprise qui dépense de l'argent pour effectivement développer son offre, et à ce moment-là elle ne propose à aucun moment la possibilité de rentrer en contact avec elle, de laisser ses coordonnées, de créer un échange. Et ça, c'est extrêmement important. N'oubliez pas que communiquer, ça vient aussi pour le commerce et que commercer, c'est échanger. Hein, c'est une discussion entre deux personnes au sens littéral du terme. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc vraiment avoir une stratégie de communication très, très fine et mesurer, constamment mesurer, mesurer, mesurer et gérer son coût d'acquisition du client. Ce qui est fondamental quand vous parlez avec tous ces pionniers, c'est qu'ils ont toujours l'œil, effectivement, sur le coût d'acquisition du client pour savoir tout ce qu'ils font. Est-ce qu'effectivement, ça intéresse tout simplement le public qu'ils ont sélectionné Et est-ce qu'ils arrivent effectivement à rentabiliser leurs opérations? Ce sont non pas des philanthropes, des associations, ce sont des entreprises commerciales et qui ont besoin effectivement d'avoir des bénéfices pour pouvoir développer de nouvelles innovations. Ensuite, le sixième, je crois, et avant-dernier point, qui est affiner sa stratégie de commercialisation. Alors ça aussi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le plus beau produit, le plus beau service au monde. Comment est-ce que vous allez le mettre à disposition de vos consommateurs? Et donc, c'est extrêmement important d'avoir une stratégie de commercialisation la plus efficace possible. Et donc, à nouveau, on revient sur ces notions de mesure des résultats des actions. Et donc, eux suivent tout le process commercial de manière extrêmement attentive. Ils regardent entre la première prise de contact du client et la signature du bon de commande, et surtout sa livraison et sa satisfaction, ils vont regarder toutes les étapes, et chaque fois qu'ils vont voir effectivement qu'il y a quelque chose qui freine un peu dans les rouages, ils vont chercher à résoudre ce problème-là de manière à être encore plus efficace. L'efficacité, ça passe aussi par du personnel commercial qui soit extrêmement bien formé et extrêmement intéressé. Et extrêmement fidélisé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre à la légère, c'est tout de même eux qui représentent votre entreprise, hein. C'est la vitrine de votre entreprise, donc c'est important qu'ils partagent les valeurs de la société, qu'ils partagent la démarche commerciale de la société, et puis c'est également extrêmement important d'arriver à les fidéliser, à les faire rentrer dans le projet, parce que pour beaucoup, c'est une vente qui est souvent plus longue. Il faut bien comprendre qu'un senior a besoin d'un argumentaire qui est souvent beaucoup plus long. Il y a beaucoup de domaines. À nouveau, j'ai relativement peu de temps, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais auprès d'un junior, c'est ce qu'on appelle des achats d'impulsion. C'est je le veux, je le veux, je le veux, il me le faut. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. Un senior, c'est un achat rationnel qui est construit. Et donc, il va falloir répondre à toutes ces questions avant, effectivement, de pouvoir envisager de lui faire prendre commande du produit ou du service que vous cherchez à lui vendre. Et le dernier point, c'est que pour vous faire confiance, il faut que je connaisse votre marque. D'où l'importance, effectivement, d'avoir une marque qui soit présente, qui soit forte et qui dise quelque chose aux gens. Il ne faut pas oublier qu'au fur et à mesure où on avance en âge, on se trouve confronté à des nouvelles situations. À ces nouvelles situations, on se trouve de nouvelles solutions, donc de nouveaux acteurs économiques. Mais ces acteurs économiques, j'en ai jamais entendu parler auparavant. Je n'avais jamais entendu parler là, des quatre présidents de société, des quatre sociétés qui sont là, avant cette arrivée à un âge relativement avancé. Quand j'étais junior, ça ne me concernait pas, je n'étais pas dedans. Et donc il faut à ce moment-là que la marque soit parfaitement repérable. D'où l'importance de construire une marque, de construire une marque forte, et d'être présent régulièrement pour qu'on sache, un, que vous faites partie des solutions qui sont envisageables, et puis deux, qu'on ait envie d'aller plus loin pour comprendre qu'est-ce que vous offrez, qu'est-ce que vous apportez à ces seniors. Voilà, c'est ce qui est ressorti effectivement de manière très très forte. Et quand vous regardez les quatre présidents de sociétés qui sont là, vous pourrez constater qu'ils ne font pas des coups par rapport à leur marque. Ils construisent véritablement leur marque. En termes de communication, ils sont présents tout au long de l'année, de manière très très régulière. Et puis, ils veillent effectivement à ce que tout ce qui transpire de leur société, toute l'image qui va être représentée de leur société, soit la plus attractive possible pour les populations auxquelles ils s'adressent.
Voilà. Merci. Merci beaucoup, Benoît Goblot. Et donc, je rappelle que cette étude a été réalisée donc, par Frédéric Serrière, que vous connaissez tous. Donc, nous allons tout de suite entrer dans le vif du débat. Donc, Bruno Derville, je me tourne vers vous. Donc, on a une présentation de votre parcours. Je rappelle que vous êtes donc PDG des Seigneuriales. Donc, vous avez commercialisé très tôt, au niveau national, un produit innovateur avec une valeur d'usage innovante. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, des deux clés de la réussite sur ce marché des seniors?
Alors, pardon, oui, il est branché. Donc Benoît Goblot a déjà dit beaucoup de choses sur le sujet, mais c'est pas étonnant puisque c'est issu des interviews des différents dirigeants. Oui, la nécessité d'avoir une véritable valeur d'usage innovante est essentielle et ça a été le guide des seigneuriales au moment de la création en 2002. Nous sommes promoteurs et exploitants de résidences services seniors et le produit de base a été fondé sur quatre valeurs essentielles et adaptées aux seniors. Le confort de nos résidences comprend aisément des maisons qui sont adaptées au vieillissement, une notion de sécurité physique avec des résidences qui sont fermées, encore que cela n'est pas forcément l'apanage des seniors, et aussi une notion de sécurité psychologique avec la présence de personnel sur place. L'aspect convivial, extrêmement important pour lutter contre l'isolement, et qui, dans toutes les enquêtes d'opinion que nous faisons avant et après l'acquisition auprès de nos clients, est fondamental. Et en quatrième lieu, parce que nous sommes une filiale maintenant de Pierre et Vacances, pouvoir offrir une dimension de vacances pas chères et tout en ayant un logement qui soit entretenu toute l'année, une notion de nomadisme en fait qui permet aux seniors, une fois qu'ils ont le temps, de pouvoir découvrir beaucoup de choses à des conditions tout à fait intéressantes. Donc valeurs d'usage innovantes et effectivement faciles à comprendre ont été une des deux clés. La deuxième clé essentielle, et cela a déjà été évoqué, et c'est une vraie difficulté, c'est la capacité à réussir à monter très vite un réseau commercial national pour pouvoir toucher le plus possible un panel de clients suffisamment important. Et quand on est une entreprise en création, c'est évidemment très difficile, voire impossible, d'avoir un réseau de salariés qui va couvrir la totalité du territoire. Donc nous avons démarré par un réseau d'agents commerciaux, donc uniquement sur des systèmes de rémunération variables. Et progressivement, avec le développement de la société, nous avons transformé notre réseau commercial en un réseau commercial intégré, puisqu'il est effectivement très important que les commerciaux aient une véritable connaissance approfondie du client, de l'expérience client, et qu'il soit véritablement fidélisé au sein de la société et qu'il ne pense 24h sur 24 qu'à commercialiser vos produits et vos services. Et donc, à travers ces multiples essais de commercialisation, de communication qui doivent à chaque fois trouver leur public, mais qui évoluent aussi en permanence, puisque quand vous avez le sentiment d'avoir trouvé la bonne communication, les bons réseaux de distribution à un instant T, un an après, tout cela est à remettre en cause parce que d'autres éléments apparaissent. Et donc, on est en permanence sur des notions d'apprentissage, de test. Et il y a une véritable démarche d'innovation et d'acceptation des échecs, des erreurs au sein de la société, parce que c'est comme ça que l'on apprend au quotidien.
Alors précisément, peut-être un mot sur les innovations à venir, puisque Benoît l'a souligné et vous venez de le rappeler, on est dans une innovation permanente. Donc quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez, vous allez travailler dans les mois, voire les années à venir?
Alors nous avons deux gros sujets actuellement sur lesquels nous travaillons, avec des industriels, un sujet sur le logement adapté au vieillissement, et donc qui peut évoluer de façon très, très modulable, à la fois par ses caractéristiques de plan et également de mobilier dans le temps, mais ce projet est à moyen terme, et beaucoup plus rapidement, dès le début de l'année 2015, l'application d'un logiciel destiné à nos résidents, diffusé sur tablette, et qui travaillera d'abord sur le volet communication entre le résident et sa famille, de manière très très simple, communication avec les autres résidents, avec le personnel de nos établissements, et également avec tout le milieu associatif extérieur, pour que, à terme, nous puissions envisager d'être quelque part un portail de services de la Silver Economy. Après le volet communication, nous mettrons en application un volet domotique, puis un volet e-santé, parce que nous pensons que c'est le bon ordre des choses pour une appropriation progressive de ces usages par les seniors pour les nouvelles technologies.
Et donc nous sommes sur le salon Silver Economy Expo. La structuration d'une filière, la création d'une filière, est-ce que ça a été un plus dans le cadre de votre activité? Qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui?
Alors non, franchement, ça n'a pas été un plus, puisque nous étions déjà présents avant la création de cette filière, sous forme, nous étions pionniers. C'est, je pense, d'abord la reconnaissance qu'il y a là un véritable marché en plein développement, et ça, nous le constatons, nous tous les jours. C'est du coup aussi la signification de l'apparition d'une concurrence plus importante, mais là, c'est toujours dynamique, intéressant, et ça tend à élargir le potentiel du marché. Et ça permet l'apparition également donc de nombreux partenaires qui s'intéressent donc au niveau de différents produits et de différents services à ce marché, qui nous permettent nous d'élargir en fait notre offre vis-à-vis des clients, de nos résidents qui sont les destinataires finaux de l'ensemble des producteurs finalement de la silver economy. Et comme je disais, on se voit à terme un petit peu comme un portail, un fournisseur de services auprès des clients finaux, puisque nos résidences sont constituées à chaque fois d'une centaine de clients seniors qui vivent là, évidemment, toute l'année. Et donc, il est facile aussi pour nos partenaires de les contacter et de leur proposer des services au quotidien, dans la mesure où nous les agréons, bien sûr.
Merci beaucoup. Mais je vous propose de poursuivre ce tour de table de manière à essayer de préserver un temps d'échange avec vous. Donc, Régis Rocton, PDG d'Easy Shower, quelques mots peut-être là aussi sur la success story et sur les éléments du succès. Vous êtes retrouvé, je pense, dans la présentation de Benoît, là aussi, notamment en termes de spécificité de la clientèle.
Oui, déjà bonjour à tous. Oui, je tiens à féliciter l'excellente présentation de notre ami Benoît, qui a bien résumé à la fois ce marché avec ses difficultés et ses particularités. Il a évoqué, et c'est pour moi fondamental, au-delà du marché, au-delà du produit, au-delà de toute chose, moi ce que j'appelle les collaborateurs. C'est-à-dire que seul on ne fait rien. Et moi j'ai la chance d'avoir autour de moi des collaborateurs qui ont cru au projet, qu'on intègre, qui arrivent à y croire, qui sont dans un esprit commun de travail d'équipe. Et on fait rien tout seul. Et moi, je dis toujours, la réussite, c'est comme l'amour, hein, ça se partage. Donc voilà, c'est le message fondamental, c'est ça. C'est d'abord de fédérer l'ensemble des gens, des collaborateurs qui sont autour de vous, qui vous supportent dans tous les sens du terme, et qui vous aident, évidemment. Voilà, donc ça me paraît être... quel que soit le secteur d'activité, est extrêmement important pour le chef d'entreprise que je suis. Ensuite, d'un point de vue plus spécifique, effectivement, la France est en face à un défi qu'elle n'a jamais connu, un défi démographique extrêmement important, un vieillissement de la population. Ce qui est assez dommage dans notre pays, c'est que dès qu'on dit ce mot un peu tabou de vieillissement, on pense tout de suite dépendance. Et non. Énormément de gens et de plus en plus vieillissent dans des états de santé extrêmement satisfaisants, et partant de là, ils n'ont pas du tout le même besoin effectivement que la personne du quatrième âge qu'on imagine avec un déambulateur marchant avec difficulté dans son appartement. Donc une segmentation du marché extrêmement importante, avec des attentes, des besoins presque radicalement différents. Et aujourd'hui, nous, le projet avec Easy Shower, enfin, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi un déambulateur, c'est moche ? Un déambulateur, c'est moche. Pourquoi ? Ça ne peut pas être beau, un déambulateur. Je crois qu'il y a un travail de design énorme à faire sur ce marché des plus de 65 ans, parce que maintenant, les plus de 65 ans, moi, je ne sais même plus comment les appeler. Les mots employés sont souvent très stigmatisants, au moins plus de 65 ans, c'est clair. C'est un chiffre. Et aujourd'hui, donc vraiment le projet pour l'avenir des e-shower, et on travaille déjà dessus, c'est de faire des produits, on garde toujours la même cible, mais qui ne sont plus du tout stigmatisants. Moi, je prends souvent l'exemple du tram. On est tous heureux de rentrer dans un tramway avec les marches qui descendent, et on n'a plus de différence de niveau de sol lorsqu'on rentre dans un tramway ou dans un bus. Et ça, c'est fait au départ pour les gens en fauteuil roulant. Mais sauf, on est très content quand même de ça. Nous aussi, il est valide. Donc là aussi, je crois qu'il y a un vrai travail de design à faire, quel que soit le produit d'ailleurs. Et je pense que des confrères du Mont-Escalier ont déjà aussi pensé à ça. Où voilà, il faut rendre les choses un peu plus sympas, un peu plus fun par rapport à notre clientèle, à la population, et puis par rapport à la famille aussi, aux enfants, aux petits-enfants. Voilà, ça me paraît important de travailler sur le design pour les années qui viennent. Voilà.
Alors, je précise que donc, vous êtes le lauréat du Top Innovation dans la catégorie du Top Entreprise du Loir-et-Cher 2014, un prix attribué notamment par le Conseil Général, la Chambre de Commerce, le journal La Nouvelle République, le MEDEF, hein, je ne vais pas citer tous les membres du jury, donc je suppose que là aussi c'est une belle reconnaissance, même si vous insistez beaucoup sur le travail d'équipe. Moi, j'ai presque envie de vous dire, parce que vous présentez ça presque comme une évidence, mais comment on fédère une équipe autour d'une activité comme la vôtre.
Ça, je crois que c'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est à ceux qui travaillent avec moi. Ouais. D'accord. Comment je fais? Je sais pas. Je crois que ça passe par la communication, quand même. Ça passe par le respect de l'individu. Enfin, il y a des valeurs. On a parlé du mot de valeur aussi dans l'entreprise. Moi, je suis très attaché à ça. Et voilà. On a un grand respect de l'individu, qu'il soit notre client, mais qu'il soit aussi notre collaborateur, à quel que soit le niveau de collaboration. Et maintenant, oui, effectivement, le prix de l'innovation, comme tous les prix, ça fait toujours plaisir. Hein, c'est, hein.
Et un mot peut-être, là aussi, sur la filière Silver Economy. Comment vous la qualifieriez et qu'est-ce que vous en attendez?
Eh bien, je dirais à peu près la même chose que ce qui vient d'être entendu, à savoir que la Silver Economy, aujourd'hui, a le mérite d'exister malgré tout, parce que c'est un engagement enfin, du gouvernement de vouloir rassembler l'ensemble des professionnels liés... je dirais l'amélioration de l'habitat et au vieillissement de la population. J'ai bien dit vieillissement, hein, j'ai pas dit... On pourrait dire longévité aussi, c'était Michel Delonnec, et je trouve que c'était bien le mot longévité de la population. Donc, pour faire face à la longévité de la population, c'est une bonne initiative au départ. C'est vrai que, dans les faits, au quotidien, comme vous, je ne peux pas changer grand-chose, mais on y croit, donc on est là, et c'est pour ça qu'on participe à ce type de conférences.
Bien, merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre avec Fernand Da Silva, directeur France de Handicare. Donc, c'est les seniors, vous connaissez notamment, vous avez été maire adjoint. On a souligné aussi l'importance pour les élus de veiller au bien-être de la population âgée. Quelles sont, selon vous, les clés du succès? Même question. Vous avez, parmi ce qui a été présenté par Benoît, est-ce qu'il y a des recommandations qui vous ont paru plus fondamentales, plus importantes que d'autres, en termes de proximité, peut-être, justement?
Oui, bonjour à tout le monde. Oui, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. Pour nous, ce qui a été très important, surtout, c'est d'être au plus près des clients. Donc, le groupe Handicare, depuis 10 ans, on a essayé de s'appuyer sur des entreprises locales. Donc, on a développé un réseau de partenariats avec des entreprises. Pourquoi? Parce que c'est eux qui connaissent mieux les clients. D'une région à une autre, les demandes sont différentes. Donc, depuis 10 ans, on s'attelle à développer localement la proximité. Le but, ça rassure les clients de se dire ben, je connais les gens qui viennent chez moi, ça fait 30 ans qu'on les côtoie. Donc, on a mis un cahier des charges très strict. Pour Handicare, c'est le mot sécurité qu'on doit mettre en premier. Donc, on est très attentif à tout ce qui est normes. On essaye de fabriquer des appareils qui correspondent aux normes, d'être le plus près possible de ce qu'attendent les clients. Le fait aussi d'avoir des entreprises locales, on s'aperçoit qu'en France, d'une région à une autre, les demandes sont différentes, le tissu économique est différent, on doit adapter nos produits en fonction de la région et de la demande. La difficulté pour un groupe comme Handicare au départ, c'est un groupe hollandais, et ils avaient du mal à comprendre, en France, on n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes attentes que les pays nordiques. Il a vraiment fallu écouter sur le terrain les gens. On disait tout à l'heure, les communes connaissent bien leurs habitants. Donc pour nous, travailler avec les communes, les CCAS, c'est très important. Ça permet de connaître un petit peu, surtout le tissu économique, parce que le tissu économique, c'est important. Il y a vraiment des écarts en France importants d'une région à une autre. Donc il a fallu écouter, et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. On a donc aujourd'hui un réseau de 50 partenaires. Pour nous, la force, c'est la proximité, la réactivité d'une PME associée à un groupe mondial. On a mis aussi en place des animateurs réseau. Il faut être toujours sur le terrain. Entre ce qu'on entend tous les jours et la réalité du terrain, souvent, il y a un monde. Donc on essaye d'être sur le terrain. Aujourd'hui, les innovations d'Handicare, c'est justement de développer un maximum des images 3D pour que les gens se rendent compte chez eux. Si demain, on leur installe un produit, ils vont voir le produit dans l'environnement. Donc c'est très important aussi de continuer sans arrêt à faire des nouveaux produits. Comme disait Régis, l'esthétique devient de plus en plus importante, ce qui n'était pas vrai il y a 10 ans. On a été obligé d'adapter les coloris parce que les mentalités changent. Les gens de plus en plus jeunes nous demandent des produits qui correspondent un petit peu à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut sans arrêt ajuster le produit. Aujourd'hui, au sein d'Handicare, le pôle le plus important, c'est le pôle études, recherche et développement. C'est vraiment des axes sur lesquels on veut faire des efforts parce que c'est le marché le demande. Donc c'est un petit peu notre approche. avec l'expérience aussi, ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est vrai, on met des choses en place, au bout de 2 ans, on s'aperçoit qu'il faut à nouveau changer. Donc d'être sur le terrain, c'est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, par exemple, pour le marché français, on ne peut pas tout décider de Paris. Il faut vraiment avoir des gens toujours sur place, écouter les besoins des clients et être réactif. Le mot réactif aussi, c'est très important. Les gens, pour avoir confiance, il faut répondre vite. Voilà un petit peu notre façon de voir les choses. Et je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut écouter, s'adapter, régulièrement s'adapter, et puis innover. Innover, c'est le mot aussi. Les gens sont de plus en plus demandeurs de nouveautés. Donc on doit aujourd'hui écouter surtout ce qui se fait sur le terrain.
Et donc en termes de nouveautés, vous avez parlé du design. Est-ce qu'il y a aussi d'autres attentes? Je pense notamment à la sécurité. Ou est-ce que finalement les normes sont aujourd'hui suffisantes?
Non, les normes ne sont pas suffisantes. Ce qui est dommage, c'est qu'en France, malheureusement, il y a des normes. Très peu de sociétés les respectent. Et c'est difficile pour le client final de faire la différence. Il est un petit peu perdu. C'est ce qui manque un petit peu. Nous, on se bat pour que chacun aujourd'hui respecte ses normes. Et ce n'est pas suffisant. On essaie d'aller plus loin. Aujourd'hui, on a des outils informatiques qui nous permettent d'aller un peu plus loin au niveau sécurité. Et par exemple, on essaye de marier des systèmes, des partenariats. On travaille avec Mondial Assistance. On trouve des partenariats pour pouvoir répondre avec le produit un petit peu à l'attente des clients.
Et on dit aussi souvent quand même que les normes sont particulièrement lourdes et que ça explique des coûts qui sont parfois très, très élevés en France. Peut-être une réaction ?
Alors, je ne serais pas trop d'accord là-dessus. Il suffit de s'adapter. Il faudrait juste que tout le monde respecte les normes. Aujourd'hui, la difficulté, j'ai eu l'occasion pendant un an avec une commission de sécurité qui s'était mise en place. Mon premier critère, je leur disais, je ne comprends pas, c'est qu'on met des normes et tout le monde ne les respecte pas. Le client, lui, final, il ne comprend plus rien. Pour lui, s'il s'est vendu sur le marché national, c'est que c'est aux normes. Et donc, c'est là qu'il, par exemple, au niveau de la silver economy, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour plus parler de sécurité de normes.
Oui, alors je peux donner un exemple aussi et rebondir là-dessus. Il y a normes et réglementations dans notre secteur d'activité. Au départ, la promotion immobilière, nous sommes soumis à des réglementations d'urbanisme et qui sont parfois aberrantes. Et j'ai encore fait le test la semaine dernière dans une de nos résidences. Ça concerne la réglementation liée au nombre de parkings pour cette catégorie de population. En général, les PLU, les plans locaux d'urbanisme, imposent au minimum une place de logement par une place de parking souterrain souvent par logement. Et comme nos résidences sont situées en centre-ville, à proximité des transports, naturellement, nos résidents abandonnent leur véhicule. Et je disais, j'ai encore fait le pari la semaine dernière en faisant visiter une de nos résidences. Je dis, ben, voyez, je vous parie qu'il n'y aura pas plus de 25% de voitures dans le sous-sol de l'immeuble. Et on a fait un compte extrêmement précis. Il y avait effectivement à peu près 25% de voitures, alors que nous avons construit en sous-sol une place de parking par logement. Il faut savoir qu'une place de parking, ça coûte à peu près 15 000 euros TTC, donc qui sont imposés à l'acquéreur et que nous ne pouvons pas mettre dans le logement qui, lui, a une meilleure valeur d'usage plutôt qu'un parking qui reste vide.
Merci. Monsieur Derville, pour cette précision. Peut-être, Monsieur Da Silva, une dernière question avant de passer la parole à Guy Bastide sur justement votre approche de la Silver Eco. Quels sont les atouts?
Alors, pour moi, c'est un petit peu nouveau, pour être franc. J'ai commencé à m'y intéresser il y a à peu près un an, à participer à différentes réunions. Je trouve que c'est une bonne chose. Déjà, ça permet de connaître aussi d'autres partenaires. On a les mêmes clients qui n'ont pas toujours les mêmes besoins. Donc, c'est important d'échanger aussi avec, par exemple, les gens qui sont autour de la table aujourd'hui et de savoir aussi ce qui se fait. Il y a des études telles que celles qui sont faites aujourd'hui qui sont très intéressantes pour nous. Dès que je vais rentrer demain, ben, grâce à cette étude, je vais changer certaines petites choses aussi en interne. Donc c'est important d'échanger déjà avec d'autres professionnels qui ont les mêmes clients et ça permet de voir un petit peu ce qui se fait. C'est une bonne chose.
Merci beaucoup.
Merci.
Guy Bastide, donc je me tourne vers vous. Vous êtes donc PDG de Bastide Group. Peut-être un mot là aussi sur l'évolution de votre entreprise et... Même question, comment vous qualifierez les clés du succès sur le marché des seniors ?
Bonjour à tous. Évolution de l'entreprise, je vais un petit peu vite là, parce que cette évolution, pour nous, elle a été assez rapide. Moi, j'ai créé cette entreprise en 1977. J'ai commencé seul. Et actuellement, on a une implantation qui est quasi nationale On commence d'ailleurs à aller un petit peu plus loin puisqu'on a dépassé la frontière de la France pour aller en Belgique. Donc j'ai créé au départ cette activité. En fait, qu'est-ce qui m'a incité à aller vers là ? C'est peut-être le fait qu'au départ, j'étais pharmacien de formation et qu'au bout d'une dizaine d'années d'activité officinale de pharmacie de ville, j'avais vu qu'il y avait une demande Alors nous parlons de patients, on parle moins de clients, encore que patientèle et clientèle, souvent, c'est relativement proche l'un de l'autre. Donc en fait, ce que j'avais perçu, c'est que c'est la majorité de nos concitoyens, d'ailleurs, ça touche les Français, les Européens, et ça va bien plus loin, préfèrent de loin vivre à domicile plutôt que d'être en établissement. Donc c'est ce qui m'a incité à créer cette société. Moi, j'ai commencé par une partie très médicalisée, et c'était pour appareiller des gens qui, d'ailleurs, n'étaient pas forcément très âgés, mais qui avaient des gros problèmes de santé. Et puis, progressivement, j'ai développé d'autres secteurs d'activité. On est allé vers la partie maintien à domicile et puis également vers d'autres pathologies qui sont la nutrition, la perfusion, etc. Donc, en fait, si vous voulez, moi, j'ai commencé à la base, ce qui, d'ailleurs, quand on parle du contact avec ses collaborateurs, donne quand même une grande confiance à ses collaborateurs. Et s'il y avait d'ailleurs un mot que je souhaiterais voir sur la façade de nos établissements, c'est inspirer confiance. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on a à la fois certes, ce sont des clients, mais ce sont pour nous plus des patients. Ce sont des gens qui souvent sont dans une période difficile de leur vie, soit parce qu'ils ont eu une pathologie qui est lourde, soit parce qu'ils ont eu un handicap, soit parce qu'ils ont été atteints, parce qu'ils sont atteints par une dépendance qui les rend vulnérables. Et donc, ce côté confiance est un élément tout à fait important. Vous m'avez dit quels sont les éléments en clé, en quelque sorte.
Absolument.
Quels sont les éléments clés ? Pour moi, je pense que l'élément clé, c'est... Alors, je reviens beaucoup sur cette notion de confiance, parce que je pense que les éléments clés dans ce secteur, ce sont des valeurs fortes qui sont affichées, mais qui sont respectées tous les jours. Et ces valeurs, elles valent pour ses patients, elles valent pour ses collaborateurs, elles valent pour ses fournisseurs, elles valent pour l'environnement et pour cet ensemble. Et en fait, moi, j'ai la sensation que par un travail dont je dirais que c'est un peu un travail de fourmi, on est arrivé à bâtir une société, donc qui est, je dis bien actuellement, qui est représentée quasiment partout en France, mais qui souhaite encore se développer. Nous souhaitons nous développer parce que nous pensons que ces métiers que nous avons, qui sont des métiers de location et de vente de matériel médical, de prestations de santé à domicile, ces métiers sont appelés à connaître un fort développement. Ils sont appelés à connaître un fort développement parce que nous savons tous qu'il va y avoir un grand changement au niveau que progressivement l'hôpital va aller vers la ville, que les durées de séjour en hospitalisation sont de plus en plus raccourcies et par conséquent, il y a une possibilité importante de création de structures comme la nôtre. Actuellement, on a environ 100 implantations en France. Je pense que, c'est-à-dire ces 75 agences qui sont en propre de la société et 25 franchises, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous voulons ouvrir largement ce réseau, notamment sur l'activité qui s'appelle maintien à domicile au travers de cette prestation de santé qui représente de la vente et de la prestation à des personnes qui peuvent être des personnes âgées, qui sont des personnes handicapées, qui sont des personnes malades.
D'accord. Et donc un mot là aussi peut-être sur ce qu'apporte la structuration de la filière. Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider précisément dans le développement de franchises, notamment dont vous venez de parler ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que je pense. Je pense que nous, en fait, d'ailleurs, ce développement de franchise et cette silver economy, effectivement, pour nous, ce n'est pas une découverte, puisque, comme je vous le disais, cela fait 37 ans qu'on est dans ce secteur. Ce que l'on recherche, d'ailleurs, on recherche parmi les franchisés, on recherche des valeurs qui soient tout à fait comparables aux nôtres. Vous comprenez bien qu'on a créé un réseau et que, bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, l'image qui est donnée par le réseau, elle est étroitement liée à l'image de chacun des responsables d'agences ou de franchises. Et en ce sens-là, nous cherchons des gens qui partagent nos valeurs. D'abord, c'est très important parce que finalement, on est beaucoup mieux quand on va de l'avant tous ensemble que si on est dans une situation qui serait un peu conflictuelle, ce qu'on ne recherche absolument pas. Donc en fait, nous, on veut développer ce réseau de franchises, c'est-à-dire qu'on pense qu'on en a environ 60-70 à créer actuellement. En ce moment, tiens, ces jours-ci, on en ouvre une en Guadeloupe. Mais on veut aller beaucoup plus loin et avoir véritablement un réseau de franchisés qui partagent nos valeurs qui partagent notre vision, qui soient finalement le prolongement de ce que nous avons fait jusqu'à présent.
Merci. Et un mot peut-être sur l'avenir. Quels vont être vos axes, les sujets sur lesquels vous avez travaillé? On a évoqué le design, on a évoqué la sécurité. Est-ce que ce sont des sujets qui vous interpellent ou voire d'autres thématiques?
Oui, vous avez raison. Vous savez que le secteur de la santé est en train d'évoluer très fortement actuellement. Cela veut dire que les nouvelles technologies pénètrent de plus en plus le secteur. C'est tout ce qui concerne notamment, par exemple, la connexion des appareillages avec les patients. Je pense qu'on a là, pour nous, je pense que c'est une formidable opportunité. En fait, il y a certainement beaucoup de gadgets, parce que vous voyez que de plus en plus, on voit des appareils qui sont connectés. Moi, je pense que là-dessus, et certainement, on arrivera par pathologie à déterminer ceux dont le patient a réellement besoin. Je veux dire qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les jours le poids, la température, le machin, etc., le cholestérolémie, la glycémie, etc. Mais je pense que finalement, ce qui est important, c'est que les patients puissent avoir, en fonction de leur pathologie, quelques éléments précis qui seront transmis aux prescripteurs, puisqu'en fait, nous avons également une patientèle en quelque sorte, mais on a bien sûr une clientèle, une patientèle qui est faite de prescripteurs. Les prescripteurs étant des médecins, les prescripteurs étant des infirmiers, les prescripteurs étant des médecins spécialistes. Donc en fait, il y a une relation étroite entre les patients, entre les prescripteurs, et c'est ce que nous voulons continuer à développer au travers de ces nouvelles technologies qui sont pour nous porteuses de beaucoup d'évolutions et qui sont pour certaines très favorable à l'économie de la société française, puisque par exemple en matière de santé, je pense qu'il y a beaucoup à faire. On a déjà, nous, certains éléments qui sont bien précis, qui sont très ancrés dans la glaise de ce que nous faisons et qui apportent une économie en matière. Il y a moins d'hospitalisation, moins de transport en ambulance, des patients qui sont contrôlés, vérifiés, suivis à domicile, ce qui apporte un plus considérable à la fois pour les patients, mais pour la collectivité.
Merci, merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour ces présentations. Alors, on a un petit quart d'heure d'échange, de questions-réponses. Donc, si vous souhaitez avoir davantage de précisions.
Moi, j'ai une première question à vous poser à chacun de vous quatre. Vous l'avez tous un peu évoqué, Bruno, en disant qu'il souhaitait aujourd'hui avoir une implantation nationale pour répondre aux demandes qui venaient d'un petit peu partout en France sur les résidences services seniors. Régis, effectivement, de la même manière, en cherchant à couvrir l'ensemble du territoire, là aussi, pour répondre aux demandes émanant un petit peu partout. Monsieur Da Silva, tous les petits entrepreneurs, les 50 entrepreneurs locaux qui relaient, qui installent et qui suivent la clientèle handicap, ou Monsieur Bastide avec les agences et les franchisés, le développement des franchisés, qu'est-ce qui peut vous permettre d'aller plus loin en termes de couverture du marché national aujourd'hui? Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Qu'est-ce que vous recherchez? Quels sont les profils que vous recherchez et la manière dont vous envisagez cet élargissement dans chacun de vos domaines?
Bruno,
je commence étant là. C'est toujours une question de commercialisation pour nous. Je le répète en permanence en interne, c'est le commercial qui est le moteur du développement. Alors dans notre secteur d'activité, nous avons deux types d'utilisateurs, de clients, l'acquéreur du logement et ensuite le résident, et qui peut être parfois le même si c'est un acquéreur senior en résidence principale. Et donc nous avons deux circuits de distribution principaux, un circuit de B2C avec nos propres commerciaux et que nous contactons nos clients via aujourd'hui essentiellement une communication télévisée, relayée naturellement par Internet. Globalement, un prospect qui réagit directement sur un spot télé nous génère 3 prospects Internet. Donc on maîtrise, et comme le disait Benoît tout à l'heure, on maîtrise parfaitement nos différents ratios de coûts d'acquisition des prospects. Et un deuxième secteur de distribution en B2B pour vendre à des investisseurs particuliers via des réseaux de commercialisation de type bancaire qui commercialisent des produits d'investissement. Et commence d'ailleurs à émerger un troisième circuit de distribution pour nous, les investisseurs institutionnels. Et là, c'est un élément très intéressant lié au développement de la silver economy. Les zinzins, comme on les appelle, les compagnies d'assurance, les fonds, on a des fonds américains qui commencent à regarder le secteur. peuvent acheter des immeubles entiers, voire plusieurs séries d'immeubles. Et là, ce sera naturellement un facteur de développement extrêmement important pour nous. Trouver la clientèle aujourd'hui finale, les résidents, n'étant pas le plus compliqué, notre activité est soumise aussi à la cyclicité du marché immobilier, qui n'est pas dans la meilleure période, comme vous le savez, actuellement.
Régis Procton.
En ce qui nous concerne, nous, on est à la recherche aujourd'hui de techniciens conseils sur l'ensemble du territoire français, avec un profil qui évolue parce que nos méthodes de commercialisation évoluent aussi. On a investi il y a 6 mois sur un logiciel 3D. Donc aujourd'hui, en 20-25 minutes, on est capable, sur place, de faire une visualisation en 3 dimensions de la future salle de bain, telle qu'on l'envisage. Et effectivement, on demande des profils aujourd'hui de gens qui maîtrisent bien, en tout cas qui ne sont pas fermés à l'informatique et à l'ordinateur en général, pour pouvoir faire des magnifiques visualisations 3D. Et nous, on va essayer de faire de magnifiques installations derrière. Ça me paraît très intéressant, je suis très content de cet investissement parce que ça enlève toute l'interprétation d'un croquis. Parce qu'un croquis est souvent lié à une interprétation. Alors que là, d'un coup d'un seul, on imprime une photo en clientèle. Notre client la signe d'ailleurs, la photo. Donc voilà, là du coup, il faut qu'on se rapproche ou même qu'on fasse la même chose qui est sur la photo.
Merci Monsieur Da Silva.
Alors nous, on a une approche un petit peu différente. C'est qu'on pendant des années, on a beaucoup développé localement. Donc localement, on est très bien implanté. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une démarche un peu plus nationale. Il faut qu'on relaye ce message au niveau national. Donc on va travailler plus sur la marque aujourd'hui pour aider justement nos partenaires locaux à pouvoir eux aussi s'appuyer sur la marque. Donc aujourd'hui, voilà, nous, on va faire un travail plus national parce que localement, ce travail est fait au quotidien. Voilà un petit peu notre approche pour les années à venir.
Monsieur Bastine.
Bien. En ce qui nous concerne et en matière de recrutement, nous avons 2 types de recrutement. Il y a d'une part l'entreprise qui a ses agences en propre et qui a un nombre de collaborateurs. Nous avons actuellement 1200 collaborateurs en CDI. Donc nous recherchons et nous avons constamment 80 postes qui sont ouverts. Ce sont des postes de techniciens, ce sont des postes de responsables d'agence, ce sont des postes ça peut être des postes d'infirmiers, des postes d'ergothérapeutes, etc. Donc il y a 2 choses. Un, il y a l'entreprise qui recrute et qui recrute à peu près en moyenne 100 de collaborateurs par an. Et il y a la deuxième partie sur la partie franchise dont je parlais tout à l'heure, où là nous recherchons des personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, qui partagent nos valeurs, qui ont envie de s'investir, qui aiment finalement ce secteur d'activité. En fait, des gens qui cherchent quelque part à rendre service, qui, quelque part, si je disais naïvement qu'il faut aimer un peu son prochain pour être valable dans ce type d'activité, c'est quand même le fond de ma pensée.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question à l'un de nos 4 invités? Si. Merci Benoît.
Oui, bonjour. Je voulais poser une question à Monsieur Da Silva. Là, vous avez parlé effectivement de la problématique sur le plan normatif. Les gens ne respectaient pas, les concurrents éventuellement, les normes. Pourtant, le marquage CE fait office en France. Ça veut donc dire que des gens ne respectent pas, c'est des concurrents ou ne respectent pas?
Il y a des gens très bien. Il y a des gens qui font leur travail très très bien. Heureusement que ça permet d'avoir une émulation entre nous. Mais il y a aussi aujourd'hui, on voit sur le marché national des choses aberrantes, des appareils qui passent par un pays européen, l'étiquette CE, mais il n'y a aucune sécurité.
Mais qui ne sont pas fabriqués en France alors.
C'est voilà. Ça. Et ça c'est un peu dommage parce que les gens sont un peu perdus après.
Et la deuxième question, si vous voulez, au niveau protection intellectuelle, vous avez une politique forte ou vous avancez et vous êtes toujours en avance sur les autres? Une question pour tout le monde.
C'est exactement ce que j'allais dire. En matière de protection intellectuelle, la plus efficace, c'est d'être en avance sur tout le monde. De toute façon, tout est globalement, en ce qui concerne notre secteur d'activité, copiable. Et le plus difficile, en fait, ça n'est pas de concevoir le produit, le service, c'est de le mettre véritablement, d'être capable de le mettre véritablement en œuvre. Et c'est là-dessus que nous concentrons en permanence, avoir toujours un temps d'avance sur la capacité à mettre en œuvre.
Régis Rocton, je vous voyais... opiné, vous êtes complètement d'accord, tous les 4.
On est un peu d'accord.
Bien, merci beaucoup. Nous avons une question, monsieur.
Bonjour, Thierry Roussel, Seigneur Adom. Question à monsieur Bastide. Votre politique internet, vous avez une boutique, un site internet qui fait de la vente. Comment vous arrivez à gérer ça par rapport à vos boutiques physiques?
À vos boutiques physiques?
Oui. OK. Je pense que c'est très clair, parce que par rapport à nos boutiques physiques, il y a deux choses. Il y a nos agences et nos franchisés. Par rapport à la vente à Internet, il y a un système de commissionnement sur la zone, quand il s'agit d'un franchisé, sur la zone pour laquelle il a une activité. Donc, il est commissionné sur les ventes. Et pour ce qui est en interne par rapport à nos agences, c'est un petit peu le même système qui existe également. Donc, ça ne pose pas de problème particulier. En fait, vous savez, avec Internet, on touche une nouvelle catégorie de clientèle, de patientèle. Et donc, que ce soit nos franchisés, que ce soit également nos collaborateurs, ils ont bien compris que c'était un plus qu'on leur apportait. Que ce n'était pas une soustraction, mais bien au contraire, que c'était un plus qui leur était apporté.
Merci. Oui, question, monsieur?
Bonjour, Olga Wiemann, la société Ciliatis. Je voulais savoir très rapidement de chacun de vous l'importance donc, de votre stratégie numérique et dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui la cible la prend vraiment en compte, aussi bien les utilisateurs et notamment est-ce que vous constatez que même des cibles au-delà de 60 ans, 70 ans commencent vraiment à vraiment en profiter?
Oui, voilà. La cible numérique est essentielle. Aujourd'hui, au Seigneurial, clairement, cela apporte environ 2/3 de nos prospects. De toute façon, les contacts aujourd'hui, les points de contact sont multimédia, multicanaux. Nos prospects peuvent commencer par la télévision, continuer par Internet pour en savoir plus et déposer un formulaire de demande devenu d'un commercial, viennent ensuite voir sur le site. Donc c'est tout à fait primordial. Ensuite, en ce qui nous concerne, nous adressons à des seniors totalement autonomes et nos prospects les plus jeunes ont aujourd'hui moins de 60 ans. Donc ce sont des prospects qui ont totalement vécu et travaillé dans le monde digital, donc pour qui l'utilisation d'Internet est tout à fait naturelle. Et l'on voit une utilisation de plus en plus importante de la plupart de nos clients. Et d'ailleurs, un de nos objectifs à travers notre logiciel que nous déploierons sur une tablette, c'est justement de réduire la fracture aussi numérique au sein de la population senior, pour pouvoir permettre en fait à nos résidents qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Internet de se familiariser de manière très, très naturelle et du coup de garder davantage de contact avec leur monde extérieur.
On parlait de l'expérience terrain. Moi, je suis avant tout un homme de terrain. Je peux vous dire que j'ai été extrêmement surpris de l'équipement des plus de 65 ans en termes de numérique. Et ils s'y sont mis extrêmement rapidement pour beaucoup. Ils sont plus équipés que je pense que vous le pensez et ils se débrouillent pas mal. Il y a des interfaces qui existent, je pense notamment à Ordissimo qui leur permet d'aborder les choses de façon plus facile. Mais l'équipement, est, pour moi, c'est très fréquent qu'on se rend compte qu'on a des demandes via Internet avec une population qui a plus de 75 ans, plus de 80 ans, 85 ans, ça arrive régulièrement. Donc l'équipement est sans doute plus important qu'on peut le penser. Voilà.
Alors moi, je rejoins entièrement Régis, parce qu'on voit dans des petites mairies de plus en plus des cours qui sont donnés aux seniors, justement, pour qu'ils puissent avoir la possibilité, seuls, d'accéder à ce type de contact, d'information. Donc de plus en plus, donc on a été obligé aussi d'adapter aussi notre site Internet, justement parce que les seniors ont peut-être une approche encore un petit peu nouvelle, donc d'avoir des images un peu plus claires pour eux. Donc ça devient très important aujourd'hui.
En ce qui nous concerne, nous pensons que les personnes, la plupart du temps, lorsque les gens partent à la retraite, ils ont une grande peur. Ils ont cette appréhension de se dire, on ferme la fenêtre. Et donc au contraire, ils ont tendance à aller vers une informatisation qui est plus poussée. Moi, je vois tous les amis que je connais, là, ils sont très informatisés, ils sont constamment sur Internet, etc. Donc, en fait, il y a, de ce côté-là, il y a une évolution. Qui plus est, cette évolution, elle est relativement rapide, parce que les gens qui sont plus âgés, qui sont peut-être moins informatisés, ceux-là, ils sont remplacés par des générations qui sont quand même beaucoup plus familières avec tout ce qui est informatique. D'autre part, nous pensons qu'il faut conserver les deux, c'est-à-dire qu'en fait, traditionnellement, on fait toujours d'ailleurs, une distribution de catalogues qui est relativement importante, puisque ce sont des millions de catalogues que nous distribuons plusieurs fois par an par le canal des suppléments TV de la presse quotidienne régionale. Donc nous pensons qu'il faut actuellement avoir tendance à réduire cette publication de documents pour aller beaucoup plus vers Internet qui se développe très largement et qui représente pour nous un vecteur de développement qui est très important.
Merci beaucoup. Bon, nous allons clore cette conférence parce que je pense que les conférences vont s'enchaîner tout au long de la journée. Donc, un grand merci vraiment à l'ensemble des intervenants, à l'ensemble des participants. Merci d'être venus si nombreux. Je vois Marion qui agite faire avancer la santé numérique. Donc, si vous voulez vous engager pour faire avancer la santé numérique, qui est une campagne lancée par Care Insight, je vous propose de vous rapprocher de Marion qui est tout au fond de la salle ou juste pour en savoir plus. Merci à vous, très bon salon, très bonne journée. Comme vous l'avez vu, on se retrouve le 20 janvier et on retrouvera donc nos locaux au théâtre du Rond-Point. Bonne journée, merci encore à vous tous.